Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la mise en œuvre de l'école républicaine, une politique du gouvernement qui suscite des remous dans le secteur de l'éducation en Mauritanie. Les Mauritaniens ont manifesté à Nouakchott le 7 octobre à l'occasion de la rentrée scolaire. Ils protestent contre une réforme qui oblige les élèves à s'inscrire dans les écoles publiques et dans seulement 8 écoles privées homologuées les 3 premières années du primaire. Pour eux, la loi promulguée en 2022 est une menace pour les établissements scolaires privés, mais pour les autorités, l'instauration de l'école républicaine qui a commencé cette année contribuera à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. À suivre le reportage de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, et l'analyse de Bakary Tandia, originaire de la Mauritanie et défenseur des droits de l'homme, vivant à New York. Nous parlerons ensuite du Mali, où le gouvernement a reporté la rentrée scolaire du fait des inondations. Notre reporter s'est rendu à l'école de Karama, située sur le fleuve Niger, une école qui a été envahie par les eaux. Le fait marquant de la semaine, c'est la presse au Tchad qui s'inquiète des mesures annoncées par les autorités pour renforcer le contrôle des médias avant les élections législatives et communale prévue le 29 décembre prochain. Nous vous amènerons enfin à la découverte des falaises de Badiangara, un vaste paysage au cœur du pays Dogon, connu pour sa richesse culturelle et historique. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Gros plan donc sur la Mauritanie, où une loi d'orientation de l'éducation adoptée en juillet 2022 entre en vigueur cette année. Cette loi qui instaure les bases d'une école républicaine oblige les élèves à s'inscrire dans les écoles publiques les 3 premières années du primaire. Pour les autorités, cette réforme contribuera à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais pour certains observateurs, cette réforme menace l'enseignement privé et l'enseignement tout court. Reportage de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
En 2022, la Mauritanie lance une réforme éducative instaurant l'école républicaine défendue à l'époque par Mokhtar Ouldoudahi, alors ministre de l'Éducation nationale.
Conformément aux directives du président Ghazouani, la réforme de l'éducation visant à instaurer l'école républicaine est une priorité urgente. Elle prévoit de transformer progressivement l'enseignement primaire en école publique, garantissant un accès égal à tous les enfants du pays.
Cependant, la mise en œuvre de la réforme qui élimine progressivement l'enseignement primaire dans les écoles privées inquiète des parents d'élèves réunis ici en cité. Ils estiment aussi que l'école républicaine ne réunit pas toutes les conditions.
Nous sommes là, le comité des parents d'élèves, donc pour revendiquer l'intégration des classes de première année AF, deuxième année AF et troisième année AF dans les écoles privées. Nous ne sommes pas contre l'école républicaine, mais cette école n'est pas encore prête à accueillir nos enfants. Côté infrastructure et aussi l'éducation qui n'est pas de qualité. Nous avons le droit de choisir l'éducation qu'il faut pour nos enfants.
J'ai essayé d'inscrire ma fille à l'école publique. J'ai trouvé une classe de 80 élèves où certains sont même assis en bas. Comment on peut laisser nos enfants étudier dans ces conditions? Je suis d'accord avec l'école républicaine, mais elle n'est pas prête. L'État n'est pas prêt à donner assez d'enseignants, à mettre les moyens nécessaires dans l'éducation. Je suis prêt pour payer pour l'éducation de mes enfants. Laissez-moi payer, c'est mon droit.
Côté autorité, Salik Guido, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, parle de réformes cruciales pour l'avenir du pays.
L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société mauritanienne, composée de divers groupes. La société doit consolider les liens qui les unissent, permettant à chacun de mieux connaître la culture de l'autre et de parler la langue de l'autre. Par ailleurs, une ouverture accrue est un encouragement à l'apprentissage des langues étrangères, telles que le français et l'anglais, qui sont prévues en particulier
Un autre point de discorde est l'arabisation avec une première année primaire entièrement en arabe. Cependant, le gouvernement a homologué 7 écoles qui enseignent en français. Mais pour cette parente d'élèves, les privées homologuées restent coûteuses et insuffisantes.
Si nous laissons passer cela, nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Les écoles privées homologuées ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut payer jusqu'à 100 000 wigias par mois pour y inscrire son enfant.
Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
Mohamed Diop, que nous retrouvons tout de suite à Nouakchott pour savoir s'il y a du nouveau par rapport à cette actualité. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Mamadou.
Alors, on vient de suivre votre reportage. On a notamment vu des parents qui manifestaient. C'était dans un sit-in. Est-ce que, avec la rentrée scolaire qui vient de démarrer, est-ce que les acteurs du secteur de l'éducation sont parvenus à accorder leur violon? Est-ce que vous savez, Mohamed, s'il y a des discussions pour qu'il y ait davantage de consensus sur la réforme? Quelles sont les dernières nouvelles à propos, Mohamed Diop?
Écoutez, je dirais non. On assiste plutôt à un dialogue de sourds entre les autorités éducatives et les parents d'élèves. Ces derniers ne sont pas fondamentalement contre l'idée de l'école républicaine, mais ils estiment que la réforme a été appliquée de manière trop précipitée. Leurs inquiétudes sont doubles. À court terme, ils craignent que le nombre limité d'écoles publiques et d'écoles privées homologuées ne suffise pas à accueillir tous les enfants. À long terme, ils sont préoccupés par l'absence d'apprentissage précoce des langues étrangères, ce qui représente une déception pour certains parents. Et jusque-là, il n'y a aucune donc une discussion engagée entre les deux parties. D'ailleurs, une lettre a été envoyée au ministère de l'Éducation nationale, mais d'après les organisateurs du CITI, ils n'ont pas encore reçu de réponse. Ils prévoient d'ailleurs de continuer leur mouvement avec un autre CITI prévu vendredi prochain au même endroit et à la même heure devant le ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif.
Alors, merci Mohamed Diop pour ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'avenir du secteur privé de l'éducation? On imagine qu'avec le nombre restreint d'écoles privées homologuées, il y aura certainement des établissements qui seront obligés de fermer. Est-ce qu'il y a des aménagements qui ont été prévus pour les promoteurs de ces écoles, les enseignants de ces écoles-là?
Écoutez, la loi d'orientation qui met en place l'école républicaine a pour objectif clair d'éliminer l'enseignement primaire des écoles privées, sauf pour celles qui sont homologuées, qui sont 8 en nombre insuffisant aux yeux des protestataires. Le directeur général des ressources humaines au ministère de l'Éducation a clairement rappelé que l'enseignement primaire sera presque exclusivement public, avec quelques exceptions donc, ou que je viens de dire, des écoles homologuées. La majorité des établissements privés ne pourront donc plus dispenser cet enseignement. Alors, pour les enseignants étrangers devront chercher des postes dans les rares écoles homologuées, mais les places y seront limitées. Pour les enseignants nationaux, le ministère prévoit de recruter, on me l'a dit, des vacataires pour combler le manque dans les écoles publiques. Cependant, il est évident que tous les enseignants privés ne pourront pas être réintégrés ni dans l'école publique, ni dans les quelques établissements homologués. Certains se retrouveront probablement au chômage ou devront envisager une reconversion vers d'autres secteurs d'activité.
Merci beaucoup Mohamed Diop pour toutes ces précisions très importantes. Alors pour une analyse, retrouvons à New York Bakary Tandia, il est originaire de la Mauritanie, il est défenseur des droits de l'homme. Salut Bakary Tandia.
Bonsoir Mohamedou, merci pour l'invitation et merci Mohamed Diop pour son reportage.
Voilà, alors vous avez certainement suivi ce reportage et vous avez suivi cette actualité. D'après votre analyse, Mohamed Diop, pour commencer, qu'est-ce qui a pu pousser les autorités mauritaniennes à proposer cette réforme? Quels sont réellement les problèmes que les autorités cherchaient à résoudre en décidant d'interdire ou alors de pousser uniquement les élèves à s'inscrire dans les écoles publiques?
C'est une question très intéressante. Ce que je peux dire est que les autorités mauritaniennes sont les mieux placées pour répondre à cette question, pour présenter les raisons ou expliquer les motivations qui sont derrière cette décision. À mon avis, la nouvelle réforme s'inscrit dans le cadre de la politique d'arabisation qui a commencé au moins depuis 1966, ce qui avait créé une crise sociale sérieuse en Mauritanie. En analysant de près la situation, la nouvelle loi, le gouvernement, en quelque sorte, cherche à continuer la même politique sous le prétexte de l'école républicaine. Cette réforme, comme les parents d'élèves l'ont si bien dit, a été une réforme hâtive et à laquelle toutes les parties n'étaient pas associées. Personnellement, je connais beaucoup d'experts mauritaniens dans le domaine de l'enseignement qui n'étaient pas du tout associés, qui étaient exclus, qui auraient pu faire des contributions de taille pour améliorer cette réforme. Bon, comme les parents l'ont dit, leur diagnostic est clair, leur diagnostic est correct. Personne n'est contre l'école républicaine, mais ce qui est réellement important, c'est le contenu et les conditions dans lesquelles l'éducation se fait. Bon, moi-même qui vous parle, je suis le produit de l'école républicaine mauritanienne. Les générations avant moi, des générations après moi, et l'enseignement était de qualité. Les structures étaient bonnes. Nous avions de très bons professeurs. Et les Mauritaniens ont brillé partout à travers le monde, dans les grandes universités. Et aujourd'hui, ceux qui sont issus de ces écoles-là sont en train de travailler à haut niveau dans les organisations internationales et également occupent de hautes fonctions au niveau de la Mauritanie. C'est regrettable. Bon, le problème, comme ils l'ont si bien dit, c'est que c'est une réforme qui ne répond pas à l'attente des élèves ou à l'attente des parents. Il y a trop de déficits. Ils ont mentionné les classes en surnombre, le déficit d'enseignants qualifiés, les conditions sont insalubres. Donc il y a un manque notoire de ressources.
Oui. Alors, Bakary Tandia, pour poursuivre la discussion, effectivement, vous avez parlé des problèmes de déficit d'enseignement et tout cela, que l'on a déjà vu d'ailleurs dans le reportage. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences si cette crise n'est pas résolue? Est-ce que, par exemple, on pourrait voir des enfants sortis du secteur éducatif? Quelles pourraient être les conséquences, selon vous, Bakary Tandia?
Ce sera la conséquence immédiate. S'ils n'ont pas accéder à l'école privée et que l'école publique n'a pas suffisamment de place à offrir à tous les élèves, au finish, ils vont se retrouver dans la rue. Et d'ailleurs, actuellement, il y a un phénomène qui est en train de se passer, pour emprunter l'expression de Sahiré Sidibé, un éducateur qui écrit très souvent dans les journaux mauritanien, chaque fois qu'il y a une situation d'importance nationale, il parle de migration scolaire. Et il y a des vagues et je dirais même une sorte d'exode vers le Sénégal, vers le Maroc, vers l'Espagne. Aujourd'hui, si tu vas à Saint-Louis du Sénégal, les Mauritaniens ont acheté, ceux qui en ont la capacité, ont acheté des maisons, d'autres ont loué des maisons. Et d'ailleurs, ça a même impacté le loyer au niveau de la ville de Saint-Louis.
Oui. Bon, alors, Bakary Tandia, vous faites bien de parler de cet exode-là et tout cela. Mais rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous reste une minute, Bakary Tandia, il faudra y aller très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de problèmes d'effectifs et de tout cela. Mais est-ce qu'il faut laisser les écoles privées être criées n'importe comment? Quel est le bon compromis qu'il pourrait y avoir pour que ce problème soit définitivement résolu?
Le bon compromis... le gouvernement doit s'ouvrir aux préoccupations des parents. Les problèmes qu'ils ont évoqués, ce sont des problèmes réels. L'éducation est vitale à la fois pour les enfants et pour l'existence et l'avenir de la Mauritanie. Donc, une solution négociée s'impose.
Voilà. Merci beaucoup, Bakary Tandia, pour vos observations sur ce sujet. Et pour terminer, quelques avis d'internautes recueillis sur la page Facebook de VOA Afrique. Un avis spécialement, puisque c'est un fidèle auditeur, Alphonse Boaki, qui dit « Si la Mauritanie a une forte population à scolariser, ce n'est pas mal de favoriser la construction d'écoles privées. L'État peut faire aussi des privés, les établissements scolaires avec un enseignement et une formation de qualité. Sinon, si l'on se limite à quelques écoles publiques, seulement, beaucoup d'enfants et de jeunes resteront déscolarisés et deviendront des délinquants. Ce n'est pas une bonne politique éducative si l'État coince les initiatives privées. Dans ce cas, le peu d'écoles publiques qu'il y a en Mauritanie ne sauront accueillir le nombre d'écoliers ou d'élèves à scolariser. » Un grand merci à tous ceux qui ont réagi sur le sujet. La suite, c'est dans un instant.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous maintenant au Mali pour la deuxième escale, pour le deuxième voyage de cette émission. On parle là-bas de la saison des pluies qui fait des dégâts. Des inondations ont poussé le gouvernement à reporter la rentrée scolaire. L'école de Karama, située sur le fleuve Niger, est envahie par les eaux. Plus de 260 élèves fréquentent cette école qui, pour la plupart, sont issus des familles de pêcheurs. Mokhtar Bari, notre correspondant, y a fait un tour. Voici son reportage.
Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Mali et Bamako en particulier font des dégâts. Parmi les personnes touchées, les riverains du fleuve Niger qui traversent la capitale malienne. L'école de Dialagoum, connue sous le nom de Karama, est située sur le fleuve Niger et a vu ses classes, jardins et sa petite ferme d'élevage emportées par les eaux. Bourray Kané est le directeur de l'école.
Alors la situation chez moi c'est catastrophique. Déjà, la crue a débordé, il y a de l'eau partout. Moi, j'ai perdu 4 salles de classe qui étaient construites en paillotte. Donc, ces 4 salles de classe-là, maintenant, il ne me reste que 2 salles de classe en dur. Du coup, ce qui empêche vraiment la reprise des cours.
À l'origine de cette école créée en 2017, permettre aux enfants des pêcheurs d'avoir accès à l'éducation et pouvoir prétendre à un bel avenir. Avenir qui semble compromis avec l'inondation de cet îlot, qui représente aujourd'hui tout un espoir. Bazoumana Koumaré est le chef de village des pêcheurs de Badalabougou.
Donc, à Kéraka, Chaman Sarbatouya. Donc, à l'âge de la Nakanaïto, M. Dérobora Farazikana Koumari. Avant, nos enfants ne partaient pas à l'école. Il a fallu cette bonne volonté pour aider nos enfants à aller à l'école. Donc, si cette école est emportée par les eaux, c'est tous nos espoirs qui s'effondrent. C'est pourquoi nous demandons l'aide du gouvernement.
Marie Garnier, l'initiatrice de cette école, qui est devenue aujourd'hui une école publique, ne cesse de multiplier les initiatives pour sauver cet établissement scolaire. Elle a lancé une initiative pour demander de l'aide sur les réseaux sociaux.
Avec les précipitations, avec les pluies vraiment très abondantes, on voyait au fur et à mesure des jours qui passaient, les bâtiments s'écrouler les uns après les autres. Et vraiment, c'est toute une grosse énergie qui est partie à l'eau, qui est tombée à l'eau, comme on peut dire. Mais l'idée, c'est de continuer, de chercher des fonds, de refonder cette école et de pouvoir continuer d'assurer la scolarité à ses enfants.
Le report de la rentrée scolaire par le gouvernement du Mali fut bien accueilli par l'administration de l'école, une administration qui a besoin d'aide pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 300 élèves qu'abrite cette école. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Après la Mauritanie et le Mali, allons maintenant au Tchad pour le fait marquant de la semaine au Tchad où la presse s'inquiète des mesures annoncées par les autorités pour renforcer le contrôle des médias avant les prochaines élections législatives et communales prévues le 29 décembre. Désormais, tout journal privé imprimé ou en ligne qui diffuserait des productions sonores ou audiovisuelles au lieu de se limiter à ses articles écrits verra sa parution suspendue. De même pour tous les médias privés qui utilisent des pages Facebook avec des insignes de leurs organes pour diffuser d'autres informations que les contenus originaux, a déclaré mercredi dernier le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel lors d'un séminaire avec la presse. Pour en parler, retrouvons en N'Djamena notre confrère Judas Alahondoum et le directeur de publication du journal Le Visionnaire. Bonsoir Judas.
Bonsoir.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui inquiète précisément les journalistes et les médias dans ces mesures annoncées par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel?
Merci. Merci beaucoup. D'abord, il faut préciser, je suis le président directeur général plutôt du groupe Média Visionnaire. Le mercredi dernier, le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur ce que vous venez de dire pour, interdire les médias à faire l'usage de l'audiovisuel dans leur diffusion. D'abord, nous pensons que cette déclaration elle est totalement infondée dans le sens où la loi autorise les médias électroniques à faire usage et de l'écrit et de l'audiovisuel. La loi 31 qui encadre l'exercice de la profession de journaliste dans ce pays stipule dans son article 25 que les médias électroniques utilisent l'écrit et l'audiovisuel pour leur activité. De sorte donc cette idée d'interdire les médias électroniques de faire usage de l'audiovisuel dans la diffusion de l'information. Nous pensons qu'à travers cette décision, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel cherche davantage à isoler la presse, c'est-à-dire surtout celle produite en cette période électorale, parce que vous savez, les acteurs politiques et autres utilisent beaucoup plus ces derniers temps les médias électroniques pour leur communication, que ce soit le meeting, que ce soit les déclarations à la presse, le média visuel qui est de plus en plus sollicité, et les médias électroniques sont en première ligne dans cette activité. Le chemin également suit ce pas parce qu'il est autorisé au chemin d'avoir des pages Facebook, des sites internet pour diffuser le contenu de ce qu'ils peuvent diffuser de manière vivante écrite à travers l'internet. Donc c'est ce qui se fait actuellement. Mais le programme de la retraite des médias est devenu bien qui est d'ailleurs un journaliste parce qu'il a exercé en tant que journaliste avant d'être nommé à ce poste, sort miraculeusement cette décision pour interdire les médias de faire. Nous pensons que cette décision ne mérite pas d'être prise et qu'on est en train d'aller à l'arbitraire en négligeant, sinon en laissant de côté tout ce qui est texte encadrant la profession qui a été adoptée par le pays.
Voilà. Merci beaucoup, Judas Alaoundoum, directeur de publication du journal Le Visionnaire. Merci d'avoir de nous avoir donné des nouvelles fraîches par rapport à cette actualité. La suite, c'est dans quelques instants. Et maintenant, la note positive de cette édition. Au Mali, les falaises de Badiangara sont un vaste paysage au cœur du pays Dogon, connu pour sa richesse culturelle et historique, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Les valeurs des habitants de la zone reposent sur une philosophie et une religion riche et complexe. Le secteur du tourisme qui faisait découvrir la riche et fascinante culture Dogon était une vraie industrie économique avant la crise sécuritaire de Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Ces sources d'eau annoncent une bonne campagne agricole au plateau Dogon. Malgré le poids de la religion, les Ama, qui veut dire le Dieu suprême en cosmogonie Dogon, jouent un rôle important. Si les hauteurs de la montagne, Bourama Dolo nous autorise à filmer ses fétiches.
On donne Ama.
Ama est le Dieu spirituel. Ici, on a deux dieux. Celui d'en bas et celui de là-haut. Comme tu peux voir, chaque année on fait le sacrifice à la veille de l'hivernage pour implorer un bon hivernage.
Les sites de la falaise de Badiangara est un vaste paysage culturel. Les communautés du site sont essentiellement des Dogons. Les falaises disposent des sites autrefois très convoités par des touristes comme le tunnel naturel de Sangabongo.
Nous sommes à l'entrée du tunnel Sangabongo. Ce tunnel permet de rallier Sanga et aux autres villages. Des milliers de touristes venaient visiter et photographier ce lieu.
Très fascinant, le plateau Dogon possède des traditions sociales prestigieuses qui ont survécu au temps, comme les Togunas, les fêtes rituelles ou encore les masques. Des symboles qui ont impressionné des milliers de visiteurs comme Marcel Griol, l'ethnologue français qui a consacré une grande partie de sa vie dans ce campement de Sanga. C'est ce que nous dit Sekou Dolo.
C'est ce bâtiment qu'on appelle le campement. Ce bâtiment, il est construit en 1909, habité par Marcel Griol, qui est arrivé en 1931, et il est mort en 1956. Et toutes les cérémonies funéraires ont été passées ici.
Bien avant la crise sécuritaire, le secteur du tourisme était une véritable industrie qui profitait à beaucoup comme Hassim Guindo.
Le plateau de Dogon a besoin de profiter du tourisme à travers des coopérations. Nous souhaitons le retour à la stabilité pour reprendre nos activités touristiques.
Ici, les habitants restés sur place espèrent le retour de la paix et de la stabilité afin de vaguer à leurs occupations et reprendre leurs activités économiques. Tidiani Ouedraogo, Koro, pour VOA Afrique.
Merci beaucoup. beaucoup Tidjani Ouedraogo de nous avoir apporté ces nouvelles fraîches de Badiangara, de Koro, au Mali. Et c'est avec ce reportage que s'achève cette édition de Focus Sahel. Un grand merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à notre invité, Bakary Tandja, à New York, qui était avec nous pour analyser la situation de l'école en Mauritanie. Enfin, je tiens tout particulièrement à saluer nos correspondants, dont Mohamed Diop à Nouakchott et tous les autres correspondants dans le Sahel qui nous ont apporté des nouvelles fraîches de la région. Mamadou Oumfa à ce micro, Trésor Matondo était là pour la production, ainsi que Joselle Mourissa. Merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel, cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales, notamment Facebook et YouTube. Merci et à très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.